C'est ce qui manque aux politiques, vous voulez dire?
C'est ce qui manque aux politiques. Oh, les politiques, je ne sais pas lesquelles. Les politiques.
C'est le problème d'un ministère de l'écologie, de ouais. l'environnement. Il y en a eu plusieurs et ouais. on a assez dit ces derniers jours avec la démission de Nicolas Hulot à quel point c'était difficile d'être ministre de l'écologie.
Ouais, bon, enfin, c'est...
Vous le dites pas tant que ça. En tout cas, la difficulté, c'est souvent à quel autre ministère il est associé, en face de quel autre ministère il se trouve, ou quel est l'intitulé de son ministère. On l'a vu
oui,
au travers.
Vous parlez des attributions.
Oui, il me semble. Et puis ensuite, des interlocuteurs directs. Vous avez parlé tout à l'heure du ministre de l'Agriculture. C'était aussi un sujet pour Nicolas Hulot. On va voir ce qu'il en sera par la suite. Mais très souvent, quand même, il y a une difficulté dans les attributions pour le ministre en question, ou la ministre.
Le ministre qui a eu les attributions les plus puissantes, les plus exceptionnelles, c'est Jean-Louis Borloo. On n'a jamais vu un ministre de l'Environnement qui ait une telle puissance, parce qu'il était ministre de tout presque. Il était ministre de l'énergie, des logements, des transports, enfin vraiment extraordinaire.
Là, et ça, c'était une bonne idée? Ça voulait dire qu'il pouvait...
Oui,
il avait vision sur tout?
Bien sûr. Du coup, c'est, il a fait le Grenelle et tout ça. Bon, alors ensuite, tout le monde dit « Ah non, mais ça a été mangé petit à petit, etc. » Est-ce que c'est bien? Oui, c'est certainement très bien. De fait, c'est plutôt le président de la République qui doit être le ministre de l'écologie, ou le premier ministre, parce que c'est eux qui doivent mener la bataille et entraîner tous les autres et les convaincre. Maintenant, la difficulté, c'est vraiment les élections. Notre système de sélection des gouvernants, bah, ce sont les élections. Et si le parti écologiste, ou le mouvement écologiste, ou les différentes... tendance écologiste dans les différents partis ne peuvent pas dire je représente une majorité d'électeurs ou je représente une quantité très importante d'électeurs, ben à ce moment-là, vous avez du mal dans vos arbitrages. Évidemment, c'est aussi bête que ça, c'est des rapports de force.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Brice Lalonde, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire comment sera la société au bout de la transition, si on y parvient
dans
les
temps? C'est la question numéro un, c'est celle-là.
C'est une question presque philosophique et très importante, c'est un changement de société.
Mais bien sûr, mais... Le Adam Smith de l'écologie n'a pas encore écrit son bouquin. Voilà, c'est ça le problème. Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on veut? Alors, Dumont, il a dit l'utopie. Bah, l'utopie, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, il faut bien maintenant être un peu plus précis. Qu'est-ce que l'on cherche à faire et en combien de temps? Si on ne fait pas ça, on aura toujours cette espèce de malentendu entre l'envie d'agir et la désespérance parce qu'on n'y arrive pas. La réalité, quoi. Donc, moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut être assez clair. Je pense que ça ne peut pas se faire dans un seul pays. Donc, c'est avec l'Europe. Prenez l'exemple de l'économie circulaire. Rien que ça, c'est quand même formidable si on arrive à faire ça. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter les déchets? Comment est-ce qu'on peut tout recycler ou travailler dans des grands cycles naturels? C'est une magnifique idée. Essayons de le faire. Rien que ça, c'est vraiment formidable. Bon, évidemment, ne pas envoyer de gaz à effet de serre, c'est aussi un objectif extrêmement difficile. Ça veut dire se passer du pétrole, du charbon et du gaz naturel. C'est pas rien, parce que ce sont ces combustibles-là qui ont fait la prospérité et la croissance économique depuis deux siècles. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ce sont des choses énormes. Et déjà, ce serait formidable de faire ça. Maintenant, est-ce que l'on peut convaincre nos compatriotes de ne pas acheter? Ah, c'est formidable, ça a été fait en Chine, c'est vraiment quelle opportunité, c'est pas cher du tout, je peux en acheter trois d'un coup. Et puis, trois mois plus tard, on fait un vide-grenier et on vire tout ça parce qu'on en a trop. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est cette crétinerie de surconsommation. Parce que franchement, on va pas tenir longtemps comme ça, hein, de toute manière.
Vous êtes pessimiste?
Je pense que c'est foutu, si vous voulez, de toute manière. Alors, quand je dis c'est foutu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque génération humaine arrive sur la planète en pensant que la planète, telle qu'elle la trouve, c'est la nature. En ce moment, par exemple, 80% des insectes ailés ont disparu. On le voit bien que les gens qui conduisent, ils font cette remarque.
Absolument.
En disant, tiens,
il n'y a plus d'insectes,
avant,
sur,
les pare-brises. Et ben, du coup, il n'y a plus d'oiseaux pour les bouffer, etc. Eh bien, ça sera comme ça, voilà. Quand je suis arrivé, moi, sur cette planète, il y avait bien d'hirondelles. Je suis content quand je me promène, mettons, à Aix-en-Provence. Ah, tiens, regarde, il y a 30 hirondelles. Et mon papa, lui, c'était, il y en avait 400. Ah bon, d'accord. La nature est différente à chaque génération et les gens croient que c'est la bonne. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, la prochaine, il y aura des cyclones, des tempêtes. Ce qui est de plus embêtant sur le plan politique, c'est la montée du niveau de la mer. Puisque la montée du niveau de la mer, bah, par définition, va pousser vers l'intérieur des populations qui seront chassées de chez elles. Alors là, c'est comme on va avoir de très graves difficultés. Et aujourd'hui, alors comme écolo, je vous le dis, il y a des dépenses militaires qui ne cessent d'augmenter. Vous avez des chefs d'État comme Trump, Erdogan et autres qui sont extrêmement inquiétants, imprévisibles. et qui n'arrête pas de dire « moi j'ai un plus gros bouton atomique que le tien », etc. C'est complètement dingue. Donc c'est très dangereux. Et Bruno Latour, donc ce philosophe qui pense écologie aussi, lui dit « Trump, en fait, il sait très bien que le changement climatique, c'est vrai, mais il ne va pas le reconnaître, parce que lui, ça, il en a tiré comme conclusion l'Amérique d'abord, nous on prend tout d'abord et les autres peuvent crever. » Vous savez, quand on a de telles menaces, il y a deux possibilités, c'est ou bien du chacun pour soi, ou bien on va s'entraider et faire les choses ensemble. Évidemment, moi je suis pour s'entraider et faire les choses ensemble. Mais malheureusement, je vois qu'il y a des gars qui sont pour le chacun pour soi.
Donc vous êtes pessimiste, presque fataliste. C'est embêtant.
Non, parce que j'arrête pas de me battre tous les jours. Et justement, je pense qu'on peut faire des tas de choses.
Mais on ne peut les faire qu'au niveau international, c'est quand même ce qu'il faut retenir, ce que vous dites.
Oui, on ne peut les faire qu'au niveau international, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire, précisément. Et évidemment, il faut montrer l'exemple dans son pays. Ça ressemblerait à quoi? Un leader qui dit qu'il faut consommer moins et puis qui pousse les feux dans son pays, ça ne serait pas sérieux. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'on a une industrie automobile et les villes ne veulent plus l'auto. Alors comment on fait? À un moment donné, c'est ça la difficulté. Et il faut qu'on trouve le moyen de résoudre ça. Je pense personnellement qu'il n'y a pas de bonne écologie sans une bonne économie. Ça coûte cher, l'écologie, et il faut dépenser. Et en même temps, il n'y a pas de bonne économie s'il n'y a pas une forte écologie, si je puis dire, si on ne défend pas la nature et les ressources naturelles qui sont la base de l'économie. Donc on doit pouvoir y arriver. Et il y a quand même une mobilisation en France, quand même. Et Nicolas Hulot qui s'en va, c'est vraiment dommage, parce que lui, qu'est-ce qu'il en parle bien de l'écologie? Au moins, il continuera à en parler. Et le ministre, c'est pas très grave en même temps, parce qu'un ministre, ça peut être un technicien qui serre les boulons, les vis, les machins. Vous savez, ce qui compte, c'est la cuisine qui est servie, c'est pas de savoir ce qui se passe dans l'arrière-cuisine, le fourneau, le type de micro-ondes ou le machin. Ça, c'est la cuisine politique.
Et puis on peut compter quand même sur les citoyens aussi. La société bouge.
La société bouge et elle commence à...
Peut-être plus vite que beaucoup de politiques.
Beaucoup plus vite que ce que les politiques pensent. Mais la grande difficulté, c'est qu'avec les ordinateurs et tout ça, on a changé énormément de choses. Hein. L'ubérisation, l'économie collaborative, c'est extraordinaire comme ça a changé. Mais ça n'a pas changé encore la politique. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit retard à l'allumage là. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir inventer des formules politiques complètement nouvelles grâce aux ordinateurs et à Internet et tout ça.
Eh bien, on attend l'Adam Smith de l'écologie. Merci infiniment. Brice Lalonde, c'est très bien que vous nous ayez parlé de pas d'écologie sans économique, c'est exactement notre titre de demain, et même en sous-titre, le dilemme du politique, et ce sera Alain Grandjean, l'économiste, qui sera avec nous pour en parler. Dans cette série, donc, écologie et politique, et le grand malentendu que nous poursuivons jusqu'à la fin de la semaine. Merci encore d'être venu nous trouver, Brice Lalonde, et merci à notre petite équipe, Anne-Laure Chanel, qui réalise notre émission en compagnie de Marie Le Peintre, et à la préparation de la documentation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons bientôt.